France Culture. Les masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Franck Tillier avec Nicolas Herbeau.
Bienvenue Franck Tillier.
Merci, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de France Culture. Merci au public qui est là, à la Bibliothèque Nationale de France. Nous allons revenir sur cette histoire de peur et de plaisir qui sont, si je ne dis pas de bêtises, deux notions indissociables chez vous. Vous allez aussi nous expliquer ce long compagnonnage avec la mort. L'idée de cette masterclass, c'est d'essayer de comprendre comment vous êtes devenu ce phénomène du roman policier. 25 polars au compteur en 20 ans d'écriture, c'est bien 25 ?
Oui, c'est ça.
Non, parce qu'on m'a dit oui, que alors... peut-être le premier ne comptait pas. Est-ce que vous avez tranché cette question ?
Non, alors j'ai toujours un peu de mal à en parler, le tout premier, mais qui existe réellement et qui est extrêmement difficile à trouver pour les lecteurs. Il doit y en avoir que, je dirais, 200 ou 300 exemplaires papier qui circulent. C'était le premier, c'était celui avec lequel j'ai plongé dans l'écriture. Donc il ne faut jamais le renier, mais finalement je suis assez content qu'on ne le trouve pas.
Vous le cachez ou pas ?
Non, alors moi j'en ai un exemplaire chez moi, heureusement. C'était ma plongée dans l'écriture. Je l'ai écrit assez rapidement. Alors quand on commence à écrire, on ne sait pas du tout comment on écrit et comment on raconte des histoires, en tout cas en ce qui me concerne. Mais j'avais cette histoire qui a commencé à m'habiter, à me pénétrer. J'y pensais le soir, j'y pensais tout le temps. Mais sans savoir qu'un jour j'allais écrire, en fait. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi parce que j'aimais le genre, parce que j'aimais la littérature noire, j'aimais les films d'horreur, et je pense que j'en ai regardé beaucoup, j'en ai lu beaucoup. Ça m'a évidemment travaillé pendant quelques années, et puis une histoire est petit à petit. J'ai commencé à imaginer des alternatives aux histoires qu'on me racontait, en me disant, bah tiens, il pourrait se passer ceci, cela. Mais et voilà, un jour est venue cette histoire. Il a fallu qu'elle sorte et ça s'est exprimé par l'écriture.
Ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu quelque chose presque de physique, mais vous allez y revenir, Franck Tillier. D'abord, peut-être, puisque vous parlez de ce premier, et c'est l'une des questions que l'on pose régulièrement dans ces masterclass, est-ce que pour vous, devenir romancier, écrire, c'est une vocation ?
Alors, moi, j'aurais tendance à dire non, parce que ça m'est tombé dessus, mais vraiment, c'est-à-dire que on m'aurait dit un mois avant que je commence à écrire ma première page, un jour tu vas écrire un roman, j'aurais dit non. Je n'ai jamais pensé à écrire, jamais je me suis dit qu'un jour je serais écrivain, romancier en tout cas. Non, ça m'est tombé dessus, alors, il y a quelque chose de fort, alors j'essaie de l'expliquer, comment j'ai pu en venir à un moment donné à écrire. Je pense que j'en ai parlé brièvement. Il y a eu cette accumulation de...
Ça vient de l'enfance, en fait. Il y a eu, à un moment donné, une sorte d'exposition, peut-être, à ce genre, à ces thématiques, à ce cinéma d'horreur, à ces livres, à suspense auxquels vous avez eu accès quand vous étiez plus jeune.
Oui.
Ça a fait naître en vous quelque chose... Comment qualifier ce que ça a fait naître en vous ?
Du plaisir et de l'angoisse. Alors, l'angoisse, c'est quelque chose d'assez péjoratif. C'est quelque chose qui pèse, l'angoisse. Dans l'angoisse, il n'y a pas de notion de plaisir. C'est quelque chose qui va nous tendre les nerfs. C'est très différent, finalement, de la peur qu'on peut ressentir. C'était vraiment une angoisse de toutes ces lectures qui me... on pourrait faire un parallèle aujourd'hui avec les lecteurs qui lisent ce genre. Parce que c'est vrai que les gens me demandent souvent... Ah, mais comment vous faites pour écrire des histoires pareilles qui sont absolument terrifiantes ? Et je leur dis souvent, mais comment vous faites pour les lire ? Et si on les écrit, c'est parce qu'il y a des gens qui les lisent et parce que ça plaît et ça fonctionne. Non, alors je pense que c'est très lié effectivement à l'enfance. Finalement, le conte, qu'est-ce que le conte ? Les contes sont quelque part des récits qui nous angoissent quand on est tout petit, en tout cas qui vont entraîner notre instinct de peur quand on regarde les contes de Grimm ou d'autres, de Perrault, enfin tous ces contes qu'on connaît, c'est assez terrifiant. Vous pensez au petit chaperon rouge, au trois petits cochons, Barbe bleue, qui est quand même l'histoire d'un, une espèce de tueur en série comme ça qui emprisonne des femmes. Et donc, c'est terrifiant. Et donc, il y a ça. C'est-à-dire que le conte, il est là pour exprimer le fait que la vie n'est pas que toute rose, qui peut se passer des choses assez terribles. Et c'est une formation qu'on est tout petit à nous apprendre, justement, à commencer à affronter la vie. Et ça vient de là au départ. Alors, les contes m'ont jamais... Enfin, comme n'importe quel enfant, mais c'est surtout la période adolescente. Où là, je me suis vraiment confronté à ces littératures d'horreur et à ces films d'horreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'adolescence, quel que soit l'adolescent, c'est un passage, c'est un rite, il se passe quelque chose. Et la confrontation à la peur fait partie de ce rite. C'est-à-dire que n'importe quel adolescent va, à sa manière, prouver aux autres qu'il peut franchir le cap de la peur. Et moi, ça s'est exprimé, étrangement, de manière très solitaire, en fait. C'est-à-dire que j'étais seul et je me confrontais moi-même à la peur. Et je regardais tous ces films, j'avais ces lectures qui, évidemment, me passionnaient, mais... Quand j'avais lu un livre, j'avais peur d'aller me coucher, vraiment. J'avais peur de monter dans ma chambre. Je regardais le Vélux qui était au-dessus de moi et j'étais persuadé que
qu'il allait se passer quelque chose.
Qu'il allait se passer quelque chose qui allait se produire. Et donc j'ai eu un sommeil très perturbé. Je faisais énormément de cauchemars, dont des récurrents. Alors les cauchemars récurrents, c'est terrifiant parce que vous savez, en vous couchant, que vous allez faire ce cauchemar qui vous terrifie. En vous disant, quand je le ferai, je ne saurais pas que c'est un cauchemar. Donc c'est vraiment... Enfin, j'ai vécu cette période-là. Et donc, je pense que l'écriture, à un moment donné, a été le moyen d'extraire définitivement, en tout cas en partie, ces cauchemars. Et d'ailleurs, ça, je m'en souviens très bien aussi, c'est que ça s'est arrêté, vraiment. À partir du moment où j'ai commencé à écrire mes histoires... les peurs et les cauchemars se sont vraiment arrêtés. Donc, en tout cas, moi, ce que je retiens de l'écriture, c'est pas une vocation, mais c'est à un moment donné, c'était un besoin d'exprimer des angoisses qui n'auraient peut-être pas pu s'exprimer d'une autre façon.
Un besoin d'écrire, un besoin de vider son sac, en quelque sorte aussi, de se débarrasser de ces cauchemars. On va en revenir à ce premier roman, donc que vous écrivez très rapidement et qui provoque chez vous ce déclic de l'écriture. Au-delà de ce soulagement que vous venez de décrire, qu'est-ce qui se passe quand vous, Franck Tilly, vous écrivez ? Physiquement peut-être presque, ou alors dans votre tête, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que vous vous dites, ok, je vais écrire une histoire, mais vous ne savez pas comment l'écrire, comment la commencer. En fait, vous pouvez avoir lu tous les livres possibles, inimaginables, parce que vous les lisez en tant que lecteur, qui accepte qu'on lui raconte une histoire et qui accepte de vivre des aventures et des vies à travers les personnages. Et en fait, vous ne savez pas comment débute le livre, en fait, concrètement. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais probablement posé la question de dire « Mais c'est quoi la première phrase d'un livre ? Comment apparaît le personnage ? Comment il est introduit ? Comment on démarre ? Par quoi ? Par quel point de vue ?» Et donc, quand vous vous dites « Ok, je vais essayer d'écrire. J'ai lu des livres, mais je ne sais pas comment... comment on écrit. Aujourd'hui, on fait une masterclass qui explique un peu...
Vous avez donné des conseils tout à l'heure, préparez-vous.
Mais oui, mais en fait, quand on débarque comme ça, on se dit, mais un début, comment ça marche ? Comment on crée un personnage ? Comment, par quoi on l'introduit ? Et donc, finalement, des premières choses que j'ai faites, j'ai rouvert des livres qui étaient dans ma bibliothèque, et puis j'ai regardé, la première phrase, c'est quoi ? La première page, le premier chapitre ? Est-ce qu'on parle d'abord du personnage ? Est-ce qu'on expose le lieu, et puis en fait finalement on se rend compte que ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui font une grande exposition qui peut durer des pages pour poser les bases, et après donc on apprend ça et on se rend compte que les auteurs ont des moyens d'écrire différents, et c'est un parcours d'obstacles d'écrire son premier roman, parce que on se pose des questions sur tout en fait, mais des trucs aussi primaires, de se dire mais comment on fait un tiré long de dialogue, enfin, donc tout est exploration, mais en même temps c'est ça qui est fascinant, parce que finalement ça se construit petit à petit, il y a de la fabrication comme ça et on voit naître une histoire qu'on a en tête de manière très artisanale, petit à petit, en se disant le lendemain on a posé une brique de plus, et puis on remet ça le lendemain et on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas ça, quelque chose qui nous fait avancer comme ça vers l'avant.
Alors après 20 ans d'expérience, j'imagine que c'est plus facile, d'ailleurs vous nous le direz dans quelques instants, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que vous vouliez être dans ce genre-là. dans ce type de roman, dans ces romans qui provoquent chez nous, on l'a dit, cette peur, cette angoisse, issue de vos lectures. Stephen King, évidemment, était à vos côtés quand vous étiez plus jeune. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi cette omniprésence de la mort avec voilà, cet ingrédient indispensable. J'aimerais qu'on parle de ça. Le meurtre, il est là. Oui. Je ne sais pas si c'est un début pour vous. En tout cas, c'est le début d'une histoire à chaque fois.
Oui.
La fin d'une vie, mais le début d'une histoire.
Oui, oui. Et c'est vrai que je me suis, il n'y a pas si longtemps que ça, posé la question sur cette histoire de... C'est quand j'ai écrit La Faille, il y a 2 ans, dont le sujet principal était la mort. Vraiment le sujet de fond du livre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, ça fait 20 ans que je passe mes journées entouré de cadavres et de cette omniprésence de la mort, en fait. Donc je me dis, mais c'est quand même quelque chose de finalement d'assez lourd à porter. Alors c'est le genre qui veut ça, évidemment. Quand j'ai écrit ce premier roman, donc Conscience animale, en fait je me suis pas dit je vais écrire du polar, du roman policier. J'ai écrit quelque chose qui naturellement s'inscrivait dans ce que j'aimais, en fait. Cette histoire qui s'est imposée à moi, elle était faite de toutes ces cette accumulation d'horreurs, de scènes que j'avais pu lire ou voir. Donc naturellement, ça s'est glissé là-dedans parce que c'est un genre que j'aime, évidemment. Et je pense qu'on écrit tous, quel que soit l'auteur, avec des influences et dans un genre qu'il aime. C'est ce qui est le plus naturel, c'est ce qui va porter l'écriture. Hein. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi de la passion, et il faut écrire pour s'épanouir dans l'écriture. Il faut écrire avec ce qu'on aime. Il ne faut pas se forcer à sortir de son genre, je dirais. Donc oui, c'est le genre qui s'est imposé à moi. Et puis moi, ce que je retiens finalement de toutes ces lectures, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'on lit, c'est les émotions que vont nous procurer les livres. En fait, un livre, c'est un voyage à travers un panel d'émotions incroyables qui vont nous, le temps d'une lecture, nous transformer, nous faire oublier qu'on est en train de, finalement, qu'on est en train de lire. C'est ça pour moi un bon livre. Et j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune. Et en fait, je pense que c'est encore ça qui m'anime aujourd'hui, c'est de raconter des bonnes histoires, en fait. C'est ça.
On va voir ce qu'est une bonne histoire. Est-ce que dans une bonne histoire, il y a un bon meurtrier ou une bonne victime? C'est aussi des questions que vous vous posez, Franck Tillier, mais j'aimerais quand même pousser un peu plus cette idée de la mort et de votre rapport à la mort et savoir peut-être si vous y voyez, après 20 ans d'écriture, et plus, je ne compte pas les lectures quand vous étiez plus jeune, une forme de fascination. Dans un des textes de réflexion sur la mort que vous avez écrit, vous expliquez que chaque type de personnage dans vos romans et dans les romans policiers a un rapport différent à la mort. Vous écrivez « Le mort est une victime pour les policiers, un cadavre pour l'identité judiciaire, un sujet pour le légiste, un proche pour la famille et les amis, et pour vous. »
Ah, et vous l'avez trouvé ce texte, parce que c'est vrai que j'avais écrit ça pour... c'était dans un cadre très sérieux d'une étude sur la mort, mais quelque chose d'universitaire. Donc j'avais été sollicité, effectivement, pour écrire sur ce sujet, du rapport que pouvait avoir le romancier ou l'artiste, à la mort. Et donc je dis oui que l'auteur de romans policiers a un rapport extrêmement fort à la mort. On y pense tout le temps, de fait, hein, parce qu'un roman policier, c'est finalement c'est une enquête, ça démarre par un crime. Et tout au long du livre, on essaie de comprendre qui a commis ce crime. Et donc nous, moi, quand j'imagine un roman policier, j'imagine cette scène inaugurale de scène de crime, j'imagine qui l'a commis. Et donc je suis obligé de construire ce personnage de meurtrier que souvent les lecteurs ne découvrent qu'à la fin du livre. Mais nous, en tant que romancier, on est obligé de le construire, de le connaître par cœur, ce personnage. C'est un peu le personnage caché qu'on ne découvre qu'à travers les traces qu'il laisse. Et ces traces qui n'existent qu'à travers les traces qu'il laisse. Et ces traces, c'est souvent une scène de crime. Donc oui, la mort omniprésente, elle m'accompagne depuis... oui, c'est 20 années. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu à un moment donné l'envie d'écrire La Faille, il y a 2 ans, autour de ce sujet-là. Parce que je me dis, bah, ce bilan, ouais, la mort omniprésente, c'est après le Covid, et jamais la mort n'a été aussi présente pendant le Covid. C'est-à-dire que j'ai pensé à ça, je me suis dit, la mort est rentrée dans nos foyers, parce que vous vous souvenez bien, pendant le confinement, le tout premier, tous les jours, on attendait.
On égrenait le nombre de morts.
C'était effroyable, effroyable. Et à un moment donné, il y avait cette attente de dire combien aujourd'hui il y a eu de morts. Donc je me suis dit, mais la mort, en fait, qui était quand même un sujet extrêmement tabou, hein, qui a toujours. On n'ose pas en parler parce qu'elle nous ramène à nos conditions d'êtres humains. Mais je me dis, mais la mort, en fait, elle est rentrée dans les foyers et elle est un peu banalisée avec cette histoire de Covid. De manière générale, hein, évidemment, parce qu'on a tous nos cas particuliers. Et je me suis dit, bah oui. Et ça, ça a été une vraie interrogation. Et je me suis dit, je vais me pencher vers ce sujet. Et je me suis rendu compte de, finalement, que...
Attendez, parce que ça veut dire que vous n'étiez pas rendu compte avant cela que vous aviez une petite obsession avec la mort, Fratilly. Je me permets.
Bah oui, non, je me suis...
Ça veut dire que vous avez quand même une distance avec ce sujet-là.
Moi, la mort me fait très peur. Enfin, je veux dire, j'aurais tort de dire qu'elle me fait pas peur. Vraiment, je pense que je suis comme la majeure partie des gens. C'est un moment qui m'angoisse et j'essaye de pas y penser. Et c'est curieux parce que justement, je passe mes journées...
Ça vous a pas vacciné ?
Non, ça ne m'a vraiment pas vacciné. Mais oui, je m'étais jamais vraiment dit... parce que ça... Ce que j'ai toujours fait dans mes romans, c'est de... C'est pour ça que j'arrive à les écrire aussi. C'est à mettre une distance entre l'homme que je suis et puis l'auteur qui écrit les livres et qui va plonger dans des sujets absolument terrifiants. Mais c'est un peu comme, on peut dire, le médecin légiste qui... parce que moi, c'est une question que je me posais avant d'en connaître, le médecin légiste. Je me disais, mais ce métier, il est horrible. Comment on peut faire un métier qui consiste à passer ses journées à faire des autopsies de tout type de personnes, y compris des femmes, des enfants. Et je comprenais pas. Je me dis, mais il faut avoir un plaisir. Enfin, il y avait quelque chose de macabre là-dedans. Et en fait, quand j'ai rencontré un premier légiste, il me dit, mais en fait, moi, je suis médecin. J'exécute un acte médical dont le but est de rendre une justice. Enfin, en tout cas, d'apporter une contribution à une vérité. Et il me dit, ben, je ne regarde pas l'humain qu'il y a derrière, en fait. Et je ne peux pas le regarder, parce que ça m'empêcherait de bien faire mon métier. C'est un peu le transfert, voilà, cette notion de transfert. Et je pense que c'est un peu pareil pour moi quand j'écris mes livres. C'est-à-dire que, effectivement, je vais dans des sujets qui font très peur. Pour un retardement qui vient de sortir, je suis allé dans une unité pour malades difficiles, la psychiatrie la plus dure, avec des patients qui souvent sont passés à l'acte. Mais quand j'étais là-bas, je ne me suis pas dit « lui a fait ça, lui a fait ça ». J'étais dans cette démarche de dire « c'est quoi la vérité de cet endroit ? Comment je peux retranscrire au mieux, le plus justement possible, ce que je suis en train de vivre et de montrer aux gens cette vérité-là, telle qu'elle est, telle qu'elle existe, pour que chacun puisse se faire une opinion ?» Donc je suis un peu vraiment dans ce... Il y a cette distance qui s'est toujours mise entre moi et mes livres. En fait.
Il y a cette distance que vous... décrivez, peut-être pour vous protéger d'ailleurs, et vous avez évidemment le droit, mais en même temps, vous vous mettez à la place de chacun de ces personnages dont j'ai cité le nom tout à l'heure. Vous êtes policier quand vous menez l'enquête et que vous rentrez dans la vie de Franck Charcot, on va y revenir. Vous êtes aussi le médecin légiste quand on est dans la science pure, peut-être, que vous décrivez aussi avec minutie. Vous êtes aussi la famille et les proches, parce qu'il y a des émotions qui passent, ça bouleverse, il se passe des choses quand ce genre de crime arrive. Donc vous vous mettez aussi à la place de chacun de ces personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé tout à l'heure du meurtrier, que vous êtes obligé de construire petit à petit ce personnage-là, qu'on va peut-être découvrir effectivement à la fin, mais il faut aussi construire le personnage de la victime. Et ça m'intéresse. Comment est-ce que vous considérez ce personnage de victime qui, pardon, mais en quelques pages, va mourir.
Oui, et d'ailleurs qui souvent est déjà morte, enfin, suivant le type d'histoire qu'on raconte, souvent ça débute par une scène de crime, donc la victime n'existe même pas.
En tout cas pour le lecteur à ce moment-là.
Oui, pour le lecteur à ce moment-là. Et justement c'est un personnage qui doit exister, qui doit être d'ailleurs l'un des plus présents. Et c'est le travail du policier. Alors c'est pour ça que je parle aussi de la réalité du métier de policier, qui sont confrontés à des victimes en permanence et qui ont cette impression d'arriver trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent, c'est déjà commis. Donc il y a cette angoisse de se dire, mais en fait, tout ce qu'on fait, on ne la ramènera jamais à la vie. Donc moi, j'essaye de me mettre dans cet état d'esprit. Et la victime, c'est pareil que d'un point de vue narratif et de construction, c'est pareil que la manière dont on va construire le meurtrier qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire que la victime, en fait, ne va exister qu'à travers les yeux des personnes qui sont autour, puisque elle, on la voit au début, peut-être, sur une scène de crime, et après, elle disparaît. Et ça doit être un personnage qui doit être susciter beaucoup d'émotions et d'empathie chez le lecteur pour rendre peut-être ce méchant encore plus méchant. Parce qu'en fait, c'est aussi un des secrets, j'en livre un, on en livrera d'autres.
Notez.
De l'écriture. C'est-à-dire que finalement, ça, dans le roman policier, mais probablement dans tous les romans, il y a une scène inaugurale forte qui est la promesse du livre. C'est-à-dire que dans le roman policier, vous avez une scène de crime qui est la trace d'un criminel. Et plus cette scène de crime va être extraordinaire, marquante, violente, plus dans l'imaginaire du lecteur, vous allez installer la promesse que derrière, il y aura un méchant extraordinaire. Un grand méchant. Mais en fait, le grand méchant qui va s'opposer au grand gentil, au héros. Et on a besoin de ça quand on lit des histoires, des romans, que les adversaires soient à la hauteur.
À la hauteur, oui.
Donc, si on a un grand méchant, il faut qu'on ait un grand héros. Il y a cette promesse-là qui est extrêmement forte. Et donc, cette victime qui se retrouve là, oui, effectivement, il faut qu'elle soit touchante. Et donc, il faut, pareil, c'est une construction, il faut la connaître, il faut connaître tout son environnement, son passé, savoir comment on va comprendre qui elle est, alors qu'elle n'existe plus. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on construit les personnages, c'est-à-dire il y a ceux qu'on va voir, qui sont...
Très concrètement, vous avez une fiche dessus, vous écrivez la victime. Et là, vous imaginez sa vie, son physique, sa psychologie, ses amis. Très précisément, vous essayez de construire toute une vie de victime, de mort, avant de l'emmener vers la mort, puisque c'est vers là que vous l'emmenez. C'est aussi simple que ça, ou c'est peut-être un peu plus... J'invente un peu trop.
Non, c'est... elle a une raison d'avoir enfin, pour le criminel, elle a une raison d'avoir été... d'être une victime. Donc il faut connaître surtout le rapport en fait entre le criminel et cette victime. Est-ce que c'est un rapport personnel? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ils se sont connus par le passé? Donc en fait ça dépend vraiment de l'histoire que vous imaginez. Évidemment, si c'est un proche, c'est-à-dire si à la fin de l'enquête vous vous rendez compte que c'était le frère, enfin quelqu'un de très proche, vous allez construire plus basé à la construction de votre victime sur un environnement familial. Si c'est un hasard, s'il n'y a aucun lien entre le criminel, alors il y en a toujours, parce qu'en fait,
oui.
Il y en a toujours, puisque c'est cette personne-là qui a été tuée. Et donc vous allez dire le lien, c'est ça. Et vous allez vous dire, c'est comme ça, c'est ça qui fera avancer l'enquête. Donc vous allez remonter un peu de chaque côté, criminel et côté victime pour travailler autour de ce lien-là. Donc si c'est un lien professionnel ou un lien scolaire qui remonte à très très longtemps, vous allez peut-être vous dire, si c'est un lien scolaire, bon, il y avait des élèves dans la classe, donc je m'intéresse à quelques-uns qui seront dans l'environnement peut-être aujourd'hui. Donc en fait, vous allez orienter la construction de votre personnage sur ce dont vous aurez besoin dans votre enquête. J'essaye vraiment d'imaginer mon histoire et les liens entre
c'est
les liens en fait ce sont les liens.
C'est ce que j'allais dire dans cette masterclass ici à la Bibliothèque nationale de France avec Franck Tillier. On essaie de comprendre comment cet auteur de polar en est arrivé là, 25 ouvrages en 20 ans, et vous l'avez fait avec vos mains depuis tout à l'heure. Ce sont ces liens que vous arrivez à tisser entre les histoires, entre les personnages. Et Franck Tillier, en 20 ans, vous avez en quelque sorte écrit deux catégories de polar. Il y a ceux qu'on peut appeler la série avec Franck Charcot, c'est ce premier personnage que vous avez créé. Et là, vous avez offert à vos lecteurs et à vos lectrices presque un roman tous les deux ans. Le dernier, vous l'avez cité, c'est À retardement, on va évidemment en parler. Et puis, il y a aussi des livres plus indépendants qui vous permettent peut-être de respirer, de penser à autre chose, de partir ailleurs. C'était le cas de l'avant-dernier paru en 2024 qui s'appelait Norferville, toujours aux éditions Fleuve Noir. Comment est-ce que d'abord naît l'idée, et on va rentrer dans le détail avec ces deux exemples peut-être, mais l'idée de départ, comment vient le sujet? Est-ce que ça vient d'une image, d'une idée, de quelque chose que vous avez lu?
Alors je dirais que ça dépend vraiment, en ce qui me concerne, des romans. J'ai un souvenir très marquant, par exemple, de La Chambre des Morts, qui était un des tout premiers. Je travaillais, sur ingénieur en informatique à l'origine, et je travaillais dans le service informatique d'ArcelorMittal, dans la zone industrielle de Grande-Synthe-Dunkerque. Donc c'est une immense zone industrielle, et de mon bureau, en fait, là où j'étais, il y avait une grande fenêtre, et je voyais en fait cette zone industrielle incroyable. Enfin, il y a des flammes qui sortaient par les cheminées, il y avait des éoliennes plus loin. Et dès que dès qu'il commençait à faire noir, ça s'allumait, et puis ça se vidait. C'est-à-dire que ça devenait une espèce de... Ce lieu devenait une espèce de ville fantôme, très métallique, vraiment un décor de film de science-fiction, je dirais presque. Alors, en fait, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce décor-là, je me suis dit, mais il est incroyable ce décor. Et en regardant ma fenêtre, le soir, moi je travaillais aussi, évidemment, je ne faisais pas que regarder par la fenêtre, mais j'avais cette grande rue comme ça, et je me disais, mais s'il se passe un truc là, bizarre, voilà, dans ce décor incroyable, en fait c'est comme ça que ça a démarré, c'est-à-dire j'ai imaginé une voiture qui roulait extrêmement vite et qui percutait un corps, quelqu'un qui traversait à ce moment-là dans cet endroit où il n'y a plus personne normalement. Qui allait remettre une rançon justement dans cette zone industrielle. Donc ça a démarré par ce visuel en fait, très fort. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire le livre, c'était encore les débuts, donc je ne construisais pas encore mes histoires comme je le fais aujourd'hui. Bah, c'est parti de cette idée, de ce nœud-là. C'est-à-dire, j'ai imaginé quelqu'un qui allait remettre une rançon, donc il a un sac rempli de billets, en face, en fait, dans un endroit un peu vide. Deux personnes le percutent. Hop, il est mort, et se disent qu'est-ce qu'on fait de ce corps. Ils ouvrent le sac, il y a l'argent à l'intérieur, ils sont au chômage, ils ont bu un peu, ils se disent qu'est-ce qu'on fait, ils embarquent le corps et l'argent. Il y a le type, donc celui qui allait remettre la rançon disparaît, et le criminel, celui qui a demandé la rançon, il détient une petite qui était la gamine de celui qui a été percuté, et il a tout vu, il a vu ces deux personnes, il a vu la plaque. Et donc c'est un nœud complexe, c'est-à-dire qu'en fait à partir de ce nœud, je me suis dit, mais il y a trois histoires à raconter. Comme il y a eu un choc à cet endroit-là, bon, il y aura une enquête policière de cette personne disparue. Il y a le criminel qui a vu, qui lui a volé son argent et qui se retrouve avec la gamine, en plus, qui l'a kidnappée. Et il y a ces deux informaticiens au chômage qui se retrouvent avec un sac avec 1 million d'euros et un cadavre dans le coffre. Donc, en fait, c'est un nœud dramatique très fort. Enfin, en fait, des idées comme ça, moi, j'en ai cherché. Ça fait 20 ans que j'en cherche. C'est-à-dire, je trouve que c'est une idée... On sent le roman à l'intérieur. On n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer. On sent le roman.
Et on sent le plaisir.
J'en ai plus jamais eu des idées comme ça.
Et on sent le bon, plaisir de lecteur et lectrice qui rit quand vous racontez ça dans la salle. C'est que ça fonctionne bien. En vous lisant et en vous écoutant à l'instant, Franck Tillier, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est l'importance du décor. Norfairville, c'est dans le Grand Nord du Canada. Ça vient d'un voyage que vous y avez fait il y a quelques années.
Oui.
À retardement, on est dans cette unité pour malades difficiles où vous vous êtes rendu aussi.
Oui.
Vous avez cette fibre de raconter des choses que vous avez vues. Est-ce que véritablement c'est ça aussi le début de votre écriture, de votre manière d'inventer les choses, ensuite, de passer ensuite à la fiction?
Ouais. Alors c'est venu vraiment progressivement. C'est-à-dire que les premiers romans, Le Conscience Animale dont on a parlé tout à l'heure, puis après il y a eu Le Premier Charcot, Train d'Enfer pour Orange Rouge, La Chambre des Morts, je les ai écrits, on va dire, à la débrouille. C'est-à-dire que je ne connaissais absolument personne dans le milieu policier, le milieu médical, le milieu de la justice. Mais je voulais écrire une histoire sérieuse. Et donc, je me suis débrouillé avec Internet, avec des livres, voir une autopsie, comment ça se passait. Et quand je ne savais pas, je ne le décrivais pas, je contournais, en fait. De ne pas décrire, c'est ne pas mentir. Donc, bon, je passais un peu le sujet à la trappe. Et ça a bien fonctionné. C'est-à-dire que quand on lit les livres, les lecteurs, ce qui compte pour eux, c'est qu'on leur raconte une bonne histoire qui soit à peu près cohérente. Dans le tout premier Charcot, Train d'Enfer pour Orange Rouge, j'ai créé le commissaire Charcot. Et en fait, le commissaire Charcot, dans Train d'Enfer pour Orange Rouge, il fait tout seul. Il va sur les scènes de crime, il défonce des portes à 3h du matin, il attrape les suspects, il le secoue un peu. C'est-à-dire que dans les 10 secondes, il y a un vice de procédure, l'enquête s'arrête dans la réalité. Surtout que les commissaires, ne vont jamais sur le terrain. Ce sont des gens qui gèrent des équipes. Et donc j'ai créé ce commissaire, mais vraiment en ignorant tout. C'est-à-dire quand on lit ce roman, d'un point de vue de la procédure policière, c'est une aberration quasiment complète. Mais le livre fonctionne, parce qu'en fait, ce qui intéresse le lecteur, c'est de suivre une aventure d'un personnage. Et puis des policiers ont lu ce livre, ils viennent me voir, ils disent « Ah, mais on a bien eu votre livre, mais bon, là, vous voyez... Vous parlez d'un revolver, bon non, c'est un pistolet, c'est pas tout à fait la même chose. Vous dites appuyez sur la gâchette, bah non, c'est pas ça. Enfin, des détails comme ça. Et ils me donnent leur carte, ils disent bah voilà, si vous avez besoin de. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai créé au fur et à mesure un petit réseau de personnes qui peuvent m'aider et que j'ai eu envie à chaque livre d'aller plus loin dans la précision en me disant bah oui, je sais que ça s'appelle pas une gâchette, c'est une queue de détente, donc je vais mettre queue de détente. Et en fait, au fil des années, les romans sont devenus de plus en plus réalistes, précis, ce qui fait qu'aujourd'hui, 20 ans après, Charcot n'est plus tout seul. C'est-à-dire que c'est une équipe, un groupe criminel, ce sont 6 personnes ou 5, et qui se répartissent les tâches. Ils ne vont jamais seuls chez un suspect, ils n'ont pas le droit d'intervenir avant 6 heures du matin, il y a des règles. Et donc j'essaye vraiment de les respecter. D'où l'aspect un peu plus documentaire, effectivement, des romans, mais qui est extrêmement plaisant. Pour moi, c'est une vraie étape dans l'écriture, cette partie de documentation. Mais elle n'est pas obligatoire. C'est pour ça que je ne veux pas décourager les gens qui veulent écrire, parce qu'on peut très bien écrire des romans passionnants sans avoir besoin d'une ligne de documentation. Ce qui compte, c'est un imaginaire. Mais il faut que ce soit, je dirais, presque le contrat du début, où on comprend que il y aura des petites... c'est un personnage atypique, bon, ça ne se passe pas comme ça, mais on accepte le contrat parce qu'on... On pense que ça sera une bonne histoire.
Est-ce que vous vous dites que c'est aussi cette raison-là qui fait que ça dure, ce plaisir d'écrire ces romans-là ? C'est-à-dire que c'est peut-être aujourd'hui une contrainte, mais qui vous stimule en quelque sorte.
Oui, oui. Oui, parce qu'il y a cet aspect justement passionnant entre trouver l'idée et écrire, donc l'acte d'écrire tous les jours, qui est celui où l'histoire se construit. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus... passionnant, parce que évidemment on imagine, on fait vivre des personnages, ils commencent à prendre forme, et puis il y a toutes ces rencontres justement dans des milieux que moi j'aime. J'en parlais tout à l'heure, mais j'écris du roman policier, mais en plus dans des milieux qui m'intéressent, des sujets qui m'intéressent, la mémoire, l'ADN, la psychiatrie, les virus avec Pandemia, qui sont des sujets un peu scientifiques, parce que j'ai cette formation-là et que j'ai le goût de creuser et de comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, je sais que ces sujets-là intéressent les gens, et c'est essentiel, évidemment, dans l'écriture, de se dire « je vais écrire sur quelque chose qui, en plus de l'histoire que je raconte, va intéresser les gens ». Je sais que ça les intéresse parce que les gens sont concernés par ces questions-là. Et ça, c'est passionnant d'avoir des gens que vous allez voir et qui vous expliquent comment fonctionne leur métier. C'est très enrichissant à titre personnel, et puis ça me nourrit. Et il y a un aspect très important aussi qui peut expliquer le succès des livres aussi, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation. C'est la capacité à retranscrire des notions complexes de manière simple, mais sans mentir, sans déflorer la réalité d'un métier, d'un sujet. Et donc, quand j'écris Gattaca, qui est un roman un peu plus ancien, qui parle de l'évolution et de, je dirais presque, de darwinisme, dans une enquête policière, on se dit, mais comment il peut parler de darwinisme dans une enquête policière ? Et bien oui, en fait, c'est de vulgariser ce sujet. Et ce qui fait aussi le fait que ça fonctionne, c'est que mes flics n'y connaissent rien non plus. C'est-à-dire qu'en fait, mon flic, il enquête, Charcot, il enquête sur un crime, et puis il va aller dans des professions, des sujets, mais il connaît rien, lui. Donc en fait, il demande. Il dit, mais en fait, qu'est-ce que vous faites ? Donc ça me permet à moi de passer toutes les informations de manière simple, pour que Charcot comprenne, et pour finalement que les gens comprennent ces sujets qui sont parfois complexes, mais que j'essaie de retranscrire de manière simple et intégrée dans une enquête. C'est pas plaqué non plus. Ça, c'est important. On raconte d'abord une histoire, et le sujet, il vient derrière, presque invisible, mais il est là, en fait.
Il y a beaucoup de recherches, vous l'avez dit, documentaires. Ça prend combien de temps, cette partie de la recherche ? C'est une grosse partie de votre travail, hein, Fontillier.
Oui, je dirais que ça prend un tiers du travail. Moi, il y a 3 tiers dans l'écriture. Il y a la recherche d'idées, qui pour moi est la période la plus angoissante, difficile, de dire, quand vous avez écrit le mot fin d'un livre, le lendemain, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire après 25 livres ? Alors c'est une recherche active, sans savoir ce qu'on cherche. C'est-à-dire, je vais aller vers des sujets, je vais avoir vu la veille un reportage, avoir lu un article.
Si on prend l'exemple de votre dernier roman, l'unité pour les malades difficiles, cette UMD, il en existe une dizaine en France, c'est un endroit où on ne rentre pas, qui est très fermé. Et vous avez réussi, parce qu'aujourd'hui vous êtes reconnu en tant que romancier, mais à rentrer dans ce service. C'est d'abord cette idée-là, se dire je veux raconter une histoire à partir de cette unité.
Oui, ça fait partie des endroits et des sujets qui m'intéressent depuis le tout début. La psychiatrie, finalement, elle est quasiment omniprésente dans les romans policiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un passage à l'acte. Il y a un individu, à un moment donné de sa vie, qui va franchir cette frontière de la légalité, de la raison, presque parfois, pour accomplir des actes abominables. Et de se dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans la tête de cette personne ? Et moi, je m'intéresse à ça, c'est-à-dire le dérèglement qui va créer ce passage à l'acte, qui peut être lié à plein de critères, comme on imagine la société, l'enfance. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui provoque qui va briser tous les codes sociaux pour que ça se réalise. Et donc, la psychiatrie était présente. J'ai un livre sur mon bureau qui est le DSM 5 ou 4, je ne sais plus, mais qui est la Bible de la psychiatrie, parce que régulièrement je le lis, parce que je cherche toujours des syndromes, des pathologies sur lesquelles je base mes romans, souvent.
Donc ça, c'est l'idée. Puis, il y a la recherche documentaire, le deuxième tiers.
Oui, oui.
Qui prend aussi beaucoup de temps.
Oui, mais dans le deuxième tiers, la recherche crée la structure du roman. C'est-à-dire qu'en fait, quand je rencontre les gens, quand je lis des livres sur le sujet, ça me donne des idées de chapitres, ça me donne des idées de structure. Je me dis, ah mais tiens, ça existe. Je creuse encore, hop, et ça va me générer un chapitre. L'UMD, quand j'ai vu les chambres, quand j'ai vu la chambre d'isolement, je me suis dit, j'aurais des scènes à cet endroit. Ça génère forcément du récit. J'ai vu en arrivant au sein de cette unité pour maladie difficile qui est entourée d'une enceinte de 3 ou 4 mètres de haut, les patients dans la cour du milieu avec des casques de musique sur les oreilles. Je dis, mais pourquoi ils ont des casques ? Et on me dit, c'est parce qu'en fait, c'est pour éviter d'entendre les voix. Dès qu'ils enlèvent le casque, les voix recommencent. Et en fait, ça vous marque et vous dites, ça, il faut. Alors, donc ça génère des tas de. Il faut que je le raconte, c'est le nœud, c'est la matière, c'est ce qui va. C'est très, très humain. Et donc ce lieu, oui, il occupe une bonne place dans le livre. Et comme vous avez le lieu, il faut que vous ayez le personnage aussi. Et donc le personnage de psychiatre, il faut le créer. Vous dites, j'aurai un personnage de psychiatre. Et souvent, il n'y en a qu'un parce que c'est lui qui va porter, qui va être un peu la voix du message que vous voulez passer. Donc, psychiatre, je me dis homme ou femme, et je me dis une femme, ça serait pas mal, parce que de l'autre côté, il y a l'enquête policière. J'ai un de mes personnages qui s'appelle Nicolas, qui a vécu quelque chose de terrifiant dans la faille. Donc, je me dis, sans savoir, je me dis, c'est mieux qu'il y ait une femme par là. Il y a peut-être.
Vous y
moyen.
Allez quand même un peu à tâtons.
En tout cas, il peut y avoir à un moment donné, peut-être, une connexion.
Un rapprochement, un lien. Un lien qui va être créé.
Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Et donc, ces idées de chapitres me donnent des nouvelles idées de recherche en me disant, quand ils sont en isolement, après l'isolement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire quand ils sont en crise ? Est-ce qu'ils peuvent parler ? Est-ce qu'ils peuvent raconter ? Et donc, j'imagine, je me dis, ils vont raconter des trucs bizarres, mais que seule la psychiatre va pouvoir interpréter. Et elle va relier ça, peut-être, à des choses autour qui vont l'entraîner, elle aussi, dans une enquête. Et donc tout ça se crée pendant ce moment. Donc finalement, les recherches créent le livre, créent la structure du livre.
Ça veut dire qu'aux deux tiers, vous avez l'idée, vous avez la documentation, les recherches, les immersions que vous nous avez racontées, et un début de plan.
J'ai un bon plan. Alors j'ai.
Non, parce que moi, ce qui m'obsède dans les romans policiers, c'est le plan.
Oui.
C'est à quel moment vous savez ce qui se passe à la fin.
En fait, très concrètement, pour vous montrer à quoi ressemble mon. Avant, je faisais ça dans des carnets, un peu partout, des post-it, vous savez, un peu les post-it collés au mur. Or, je suis informaticien. et je fais ce qu'on appelle du mind mapping. Alors, c'est exactement pareil que les carnets, les post-it, c'est juste que c'est à l'ordinateur. Ça s'appelle des logiciels de mind mapping. Ça permet d'organiser les idées. La pensée, qui n'est pas du fouillis partout. Donc, en fait, c'est tout simple. J'ai une case qui s'appelle roman, le roman. personnages, les lieux, la documentation, les chapitres, le pitch. Et après, par exemple, les personnages, quand je crée le personnage d'Éléonore, je peux mettre une photo, je dis, voilà, elle ressemblait à une femme qui a 35 ans. Et surtout, ce qui est important, c'est la partie documentation, parce que dans la partie documentation, l'onglet documentation, j'ai même un lien internet, j'ai un lien livre sur.
Donc vous avez dématérialisé en quelque sorte l'ensemble de la documentation, oui. Des informations reliées à vos personnages, oui. Et à votre histoire.
Et surtout, souvent, quand je me mets à écrire, il s'est écoulé justement les mois de cette recherche. Donc je peux très bien avoir, à un moment donné, au milieu de l'écriture de mon livre, il peut s'être écoulé 4 ou 5 mois entre le moment où j'écris le passage et le moment où j'ai recherché, j'ai fait la documentation. Donc en fait, je ne sais plus où c'est. Si c'est dans un livre, si c'est.
Et donc, c'est quand en fait, même mieux si vous savez où c'est. Hein,
oui,
c'est,
mais avant, j'étais étrangement très fouillé. Mon bureau était très, très fouillé. Et donc, grâce à ce mind mapping, en fait, sans savoir où il est physiquement, l'ordinateur, je peux cliquer, ça va m'ouvrir le document. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et puis même, on peut l'ouvrir des années après. C'est-à-dire que je peux ouvrir le mind mapping de La Faille, de Norferville. Comme ça, ça me redonne immédiatement l'architecture de mon roman. Ça peut servir quand on a des personnages récurrents. Donc c'est une question d'organisation. Ça ne m'aide absolument pas à raconter ce que je vais raconter, mais en tout cas, ça, c'est visuel et c'est très visuel. On commence à utiliser ça dans les écoles. Hein. Le roi de France, plutôt que d'apprendre des pages par cœur, on fait des dessins avec des dates. C'est très visuel et on retient mieux. Ça fonctionne mieux.
Et alors le plan. À quel moment vous savez ce qui se passe à la fin ?
Alors,
il veut pas nous le dire.
Si, mais en fait, je le sais dès le début. C'est-à-dire que dans un roman, notamment policier, vous avez un crime et quelqu'un qui commet le crime. Et donc, en fait, je sais ça, c'est-à-dire je sais qui a commis le crime et je sais pourquoi. Quelle est la motivation du criminel ? Quelle est la raison profonde qui l'a poussé à commettre ce crime ? Et en fait, c'est ça la fin, quelque part. C'est révéler au lecteur qui a tué et pour quelle raison il l'a fait. Donc ça, je le sais. Après, par contre, je n'ai pas d'idée précise de dire ça va se passer à tel endroit, à tel moment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se dessine au fur et à mesure. Mais avant de commencer à écrire avec ce mind mapping, encore une fois, très, très concrètement, j'ai quand même mes gros événements. À retardement, on commence par deux histoires en parallèle, la partie policière, la partie psychiatrie. Et donc, j'ai le point de jonction. Je sais qu'à un moment donné, ça peut être un coup de fil, un personnage va appeler l'autre. Et ils vont se rejoindre. Ça va rejoindre mes histoires parce qu'ils vont avoir besoin de l'un de l'autre pour enquêter. Donc je sais ça, ces gros éléments. Et puis souvent, quand même, j'ai quand même les 8 ou 9 premiers chapitres. C'est-à-dire, dans justement, encore au semaine mapping, chapitre 1, un appel, la découverte de la scène de crime. Chapitre 2, ils vont découvrir sur la scène de crime un indice. Chapitre 3, on passe sur Éléonore, la psychiatrie. Chapitre 4, on reste sur elle, parce que, etc. Ce qui me permet de me lancer. Donc c'est comme ça, c'est à ce stade-là quand je commence le roman avec tout un tas de vides à combler évidemment en me disant, et ça c'est l'expérience aussi finalement ça a du bon d'avoir écrit beaucoup de livres, je sais que normalement je vais réussir à le faire parce que ça a toujours fonctionné avant. Donc on se fait un peu confiance, il y a aussi ça dans l'écriture, c'est-à-dire beaucoup de confiance qui fait que ça fonctionne, parce que c'est un métier aussi de doute, où on doute en permanence et je doute en permanence sur d'autres choses. À chaque livre, doute nécessaire, parce qu'en fait, c'est ce qui va rendre le roman, je trouve, encore meilleur, c'est de se confronter en permanence à des problèmes, à des obstacles. C'est toute la perversité de l'écriture, c'est-à-dire que vous montez une fois le Mont Blanc, la toute première fois, vous arrivez en haut, mais vous avez. Ça a été horrible d'y arriver en haut, et vous savez, vous avez repéré les endroits qui sont vraiment extrêmement pénible, où vous dites, si je repasse là, je n'y arriverai plus, ça va être horrible. Et puis en fait, à peine arrivé en haut, vous dites, allez, on y retourne. vous retournez en haut, quand je serai en haut, ça y est, j'arrête. Et puis après, et vous retournez. En fait, donc il y a vraiment cette image-là où vous savez que vous allez rencontrer des problèmes, mais qui sont nécessaires. Non, j'ai besoin de ces problèmes-là. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on sait qu'on va les rencontrer, qu'il va falloir les résoudre.
On a envie de vous imaginer Franck Tilly en train d'écrire, une fois que vous êtes dans ce troisième tiers de votre temps, le dernier tiers de l'écriture, comment vous organisez vos journées ? Vous avez une règle, une méthode très, très stricte ?
Oui, oui, oui. Alors, ce sont de gros romans déjà à la base, donc c'est très mathématique ce que je vais dire, mais un roman de 600 pages par rapport à un roman de 400 pages, bah, il y a 200 pages en plus, donc bah, ça va
oui,
prendre
jusque-là, je vous suis.
Un quart ou un tiers de temps en plus, parce qu'en fait, le délai s'allonge, je dirais presque, par une règle de 3, entre, selon la taille du roman.
On voit l'esprit de l'ingénieur.
Oui,
je sais pas
oui,
si,
oui. Parce qu'en fait, je me connais bien et je sais que par semaine, j'écris autant. Enfin, mes pages à moi, parce qu'après, ce qui ne sont pas forcément les pages du roman, mes pages à moi font à peu près 2 pages de roman. J'ai besoin de ces pages-là parce que j'ai toujours écrit sur ce format-là.
Vous écrivez 2 pages de plus ?
Non, en fait, une page sur Word, on va dire, ma page à moi, ça correspond à 2 pages de roman.
D'accord.
Donc en fait, si mon roman final fait 200 pages, il en fait 400 en réalité. Donc c'est un peu comme ça.
Et revenons au concret, parce que là, vous essayez de m'embrouiller avec des chiffres. Je vous vois bien. Donc, vous vous levez le matin, à quelle heure? Vous vous mettez où pour écrire, très concrètement, qu'on puisse vous imaginer?
Oui, alors moi, je suis souvent à mon bureau vers 7h, 7h30. Mon bureau qui est dans ma maison, donc ça va, je
n'ai
pas allé loin. Bon, en fait, c'est calqué sur le rythme qui a toujours été mon rythme d'entreprise. Et puis des enfants, hein, évidemment, qui se levaient à l'heure de l'école. Et je trouve que démarrer une matinée à 7h du matin, quand il est midi, on a l'impression qu'une journée complète s'écoule. Enfin, de vraiment avoir travaillé. Ça m'intéresse. Et c'est aussi la période du jour où le cerveau est le plus, je trouve, le plus productif, le plus frais. Et donc, c'est là où je crée. C'est là où j'avance dans mon écriture. Vraiment de la création pure. J'écris des pages. Et là, je veux manger. Vous voulez les détails, hein, je vous
les donne.
Il y a les petits cafés entre deux. Je fais beaucoup de pauses, en fait, bizarrement. J'écris pas... Voilà. Et quand je reviens l'après-midi, en fait, je repasse sur ce que j'ai écrit le matin parce que j'ai besoin que la musique soit parfaite. C'est-à-dire, là où des auteurs s'en fichent, eux continuent à avancer, moi, j'ai besoin que là, à l'endroit où je suis, tout fonctionne. Donc, parfois, ce que j'ai écrit le matin a des implications sur ce que j'ai déjà écrit les autres jours, parce que j'ai une idée le matin en me disant, bah tiens, ça serait bien qu'elle boive du café alors qu'elle n'en boit pas du tout, enfin, pour une raison complètement inconnue ou que je juge utile à ce moment-là. Et donc je la fais boire du café, mais il faut introduire ça dans tout ce qu'on a fait avant. Et donc ça va avoir des implications sur tout un tas de pages avant. Mais je connais mon roman par cœur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai ce rituel de relire tous les lundis tout ce que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'en fait, quand je commence un roman, bon, j'écris la première semaine, donc le lundi, je relis ce que j'ai écrit. Et puis le lundi suivant, je relis ce que j'ai écrit. Donc on imagine, au fil de l'avancée, après, quand je suis à la page 350, et ben, en fait, le lundi, je relis les 350 pages. Et puis le lundi suivant, je relis les 370 pages. Ce qui fait que, évidemment, je ne peux plus digérer le livre une fois qu'il est terminé. Mais en fait, je fais ça parce que, à chaque fois, je me rends compte qu'il y a des petits détails.
C'est ça que vous corrigez ?
Ouais, c'est ça que je corrige. Parce qu'en fait, les lecteurs de romans policiers sont des vrais enquêteurs. Ils ont besoin que tout s'assemble à la perfection, avec comme une montre suisse, il faut que rien ne déborde. Et c'est ça qui dégage un plaisir infini chez un lecteur, qu'il repère un petit détail et qu'il le retrouve plus loin. Il se dit « Ah ouais, je l'avais vu ». Et moi, j'ai vraiment ce souci-là. Alors, c'est encore une fois le métier. C'est pour ça qu'on me demande souvent « Ah, mais votre métier n'a rien à voir ». On se rend bien compte que depuis tout à l'heure, quand même, il y a un lien évident entre mon métier d'ingénieur en informatique et mon écriture. Et donc, oui, j'ai besoin de ça. Donc, c'est un peu mon rituel. Et puis après, bah, les autres jours, c'est un peu comme les briques d'une maison. C'est-à-dire, bah, si vous ne posez pas les briques, la maison ne monte pas. Donc là, c'est vraiment tous les jours d'y aller. Mais en même temps, c'est une période très créative parce que justement, je vous disais, j'ai des idées comme ça qui viennent. Je vous ai parlé du café, mais parfois, c'est des choses qui ont beaucoup plus d'impact sur l'écriture. Vous avez j'en ai eu plein dans un retardement. Je me dis, mais il faut que je fasse ça alors que j'avais prévu d'aller par là. Je vais par là parce que c'est mieux au moment où vous sentez vos personnages vivent. Donc vous allez par là, mais vous allez essayer de revenir parce que vous allez quand même essayer de suivre votre plan. Donc c'est un peu comme ça, c'est un Vendée Globe, c'est-à-dire vous avez votre trajectoire, vous voulez aller revenir à l'endroit, mais il y a les vents qui vont vous pousser, oui, qui vont vous faire aller en arrière, et vous allez avoir un orage qui va casser votre mât. Et c'est ça pour moi l'écriture.
Comment sait-on qu'une œuvre est achevée ? À quel moment vous mettez le point final ?
Alors ça, c'est une question... je trouve que quand j'ai commencé à écrire, on ne sait jamais quand elle est finie. C'est-à-dire qu'on... On repasse toujours dessus et on se dit « je ne peux pas l'envoyer ». Il y a l'angoisse de se dire le texte est terminé et je vais le faire lire à quelqu'un, je vais le faire lire à un éditeur. Aujourd'hui, je sais, je me connais bien et je sais que quand j'ai, par ce procédé de recommencer à chaque fois, je sais que même pour le dernier chapitre, j'aurais relu tout ce qu'il y a avant. Donc je sais qu'une fois que j'ai terminé d'écrire ce chapitre final, pour moi, c'est fini, hop, ça part. C'est vraiment comme ça que je le perçois, parce que c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit, qui s'est perfectionné au-delà des jours. Et donc, quand j'arrive au bout, je sais que c'est fini. La plus grande difficulté pour moi est d'arriver au bout. Oui, et c'est une des difficultés qui est encore plus forte dans le roman policier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ouvert plein de portes qui génèrent un suspense incroyable, une attente du lecteur. Et évidemment, cette attente doit être comblée. Et il faut refermer toutes ces portes à la fin. Et parfois, c'est extrêmement compliqué parce que vous n'y arrivez pas. Justement, quand vous dites « Est-ce que vous connaissez la fin ?» La fin globale, oui. Mais refermer les portes une à une, parfois, c'est très compliqué. Et c'est un peu vaseux. On essaye de... En forçant un peu, ça passe, mais limite. Et c'est ça qui est le plus difficile. Mais une fois que tout ça est franchi, ben voilà, ça y est, c'est terminé. Et là, on sait que c'est fini. Et puis, on a cette sensation de se dire... Ouais, j'y suis arrivé, je le sens bien, donc je pense que ça va être un bon livre. Évidemment, après, il y a le jugement.
Alors, allons-y, le jugement, puisqu'il faut, évidemment, après, publier, envoyer son script et ensuite le faire lire au lecteur. Quelle est la place du lecteur ? On sent, d'ailleurs, dans ce que vous venez d'expliquer, que c'est très important, cette relation avec les lecteurs et les lectrices.
Oui, alors moi, le lecteur a une place essentielle dans le livre, c'est-à-dire que chaque fois que j'écris une ligne, je pense au lecteur. Je suis le lecteur. Je suis mon propre lecteur qui me dit qu'est-ce que j'attends de ce moment-là dans l'écriture. Est-ce que j'attends du suspense ? Est-ce que j'attends qu'il y ait une résolution ? Est-ce que j'attends qu'on me livre des informations ?
Et ça, c'est quand vous êtes en train d'écrire.
Oui.
Mais après, ils sont là.
Oui.
Ils vous ont lu.
Oui.
Ils vous envoient des messages. Ils vous rencontrent lors de signatures, lors de rencontres en librairie. Et ils viennent vous dire... Là, Franck, peut-être que vous avez un peu exagéré. Oui. Là, c'était pas une très bonne idée. Ça, mais c'est aussi une façon de poursuivre écriture et peut-être même d'imaginer la suite.
Oui, moment extrêmement important pour moi. Ça me nourrit et ça construit. Ça m'aide à m'améliorer dans l'écriture. Évidemment, on est très heureux quand les gens sont enthousiastes et qu'ils viennent vous voir pour dire qu'ils aiment vos histoires. Mais ce que j'aime aussi, c'est les gens... qui vont pointer des éléments qui leur ont moins plu, peut-être, ou en tout cas qui les ont gênés. Je me souviens un jour d'une dame qui me disait, c'était d'ailleurs avec La Chambre des Morts, et elle me dit, j'ai vraiment aimé votre livre jusqu'à tel point. Elle était enceinte, il y a un truc par rapport aux femmes enceintes dans le livre, et elle me dit, mais là, en fait, à ce moment-là, j'ai eu du mal à continuer à lire votre livre, c'est devenu, j'ai dû me forcer. C'est terrible pour un auteur d'entendre ça, c'est-à-dire de passer d'un plaisir à d'un seul coup quelque chose de malsain. Et je me dis, mais qu'est-ce qui a provoqué le déclic ? Elle m'explique. À un moment donné, vous décrivez très précisément ça. Et ça, c'est très fort pour un auteur de recevoir ça, parce que je me dis, ben oui, là, je me suis raté par rapport à cette dame-là. Alors, c'est pas pour tout le monde. Mais ce qu'on veut, c'est que ouais, si ça n'a pas marché pour elle, peut-être pour d'autres. Et donc ça, je me dis, ben oui, en fait, j'aurais pu faire autrement, ne pas décrire avec cette précision-là, savoir que ça allait... pourrait générer des malaises chez certaines personnes. Et ça, ça nous aide évidemment dans la construction. Moi, ça m'a toujours aidé. J'étais très descriptif dans les premiers. Et finalement, est-ce que la peur, elle n'est pas plus forte quand on reste derrière la porte et qu'on ne l'ouvre pas et qu'on pousse le lecteur à imaginer ce qu'il y a derrière plutôt que de le décrire physiquement, ce qui va être quelque chose d'assez terrifiant, qui va un peu nous écœurer, de laisser l'imaginaire du lecteur travailler. C'est ce que j'essaye de faire. Et toute la force des livres, c'est de faire travailler cet imaginaire au maximum pour que le lecteur s'approprie cette histoire, la vive. C'est toute la force du roman, je trouve, par rapport au film. Le film qui va nous imposer. Alors moi, j'adore les films, on passe des moments extraordinaires, évidemment.
Vous avez écrit des scénarios, il y a même certains de vos livres qui ont été adaptés à la télévision, ou en tout cas en film. Et c'est vrai que vous dites, la difficulté, c'est quand il y a de l'image, il faut montrer.
Oui, oui. Ce qui fait souvent que les gens sont déçus des adaptations. Parce qu'il y a quelque chose qui se casse dans l'imaginaire et qui fait que les gens disent « Ah, mais je l'imaginais brune dans le livre, elle est blonde dans la série. » On s'en fiche complètement de la couleur des cheveux. Mais chez un lecteur, c'est important. Et donc, il va focaliser là-dessus, ça va lui faire passer à côté de tout le reste de l'histoire. Et en tant que scénariste, oui, on fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire que l'écriture de roman, c'est la liberté absolue, c'est au niveau des décors, des personnages, des époques. Évidemment, quand on passe côté scénario, tout ce qu'on écrit a un coût. Le producteur, si dans la première scène du scénario que vous écrivez, vous, scénariste débutant pour France 2, et si vous faites couler le Titanic dès la première scène...
Oui, il ne va pas être d'accord.
Il va dire, tu remplaces ton Titanic par une barque, ça sera mieux, niveau budget. Donc oui, il y a ces contraintes qui s'imposent. Mais c'est aussi une belle écriture, l'écriture scénaristique, parce que ce qu'on écrit, ça prend vie. On se dit, on écrit pour des comédiens, tout ça va exister. Les décors qu'on décrit vont exister, les personnages. Donc il y a cet aspect très concret qui n'existe pas forcément dans le roman. Donc deux choses différentes, mais aussi complémentaires, évidemment. Finalement, le point commun, c'est qu'on continue à raconter des histoires, et de bonnes histoires.
Avec plus de 10 millions de livres vendus depuis 20 ans, Franck Tillier, voici ma dernière question. On a parlé de la mort tout à l'heure, beaucoup de la mort même. La question de la postérité, qu'est-ce qui va rester après vous? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il reste après vous? Je suis content que ça fasse rire tout le monde.
Non, moi, ce qui me touche le plus, c'est que mes enfants soient sensibles aussi. Sachent qu'ils ont un père qui écrit. Alors, ils sont grands maintenant, ils ont 22 et 18. Ils sont très heureux. Ils sont nés et ont grandi avec un père qui a toujours écrit. Donc, en fait, quand ils étaient petits, c'était la normalité. Pour eux, ce qui n'était pas normal, c'était que les gens finalement aillent ailleurs pour travailler. Donc non, je n'ai pas de... Moi, ce qui compte, c'est d'avoir rempli ce contrat, de raconter des bonnes histoires, et que peut-être, quand je serai plus là, les gens vont dire « Ah, tu peux, si tu, vraiment tu veux passer un bon moment, lis cet auteur, tu verras. » C'est la magie du livre, c'est-à-dire d'avoir procuré ce voyage et de faire vivre d'autres vies au lecteur. Comme disait Umberto Eco, quand on lit des livres, on vit des milliers de vies différentes. Et c'est d'avoir pu procurer ce moment de bonheur à travers des histoires noires quand même, mais c'est quand même du bonheur dans des vies, voilà, dans nos vies qui parfois sont un peu compliquées. Le livre, c'est cette promesse de nous faire nous échapper le temps d'une lecture. Donc j'essaye de faire ça au mieux, et puis j'espère qu'on retiendra ça de mon parcours.
Merci beaucoup, Franck Tillier.
Merci beaucoup.
C'était la masterclass de Franck Tillier avec Nicolas Herbeau, enregistrée à la bibliothèque François Mitterrand. Coordination Henri Leblanc, attaché de production Corinne Amar, coordination technique Francesca Fossati, prise de son Nicolas Mathias et Christophe Michou, réalisation Perret Legras.